Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
Oui. Oui, en direct.
Les gaz sont lâchés, ce sont plus les gaz lacrymogènes.
Reculez.
Les médias en 68, le nouvel observateur ce matin.
Oui, la chienlit, non.
Voici le troisième épisode de notre série consacrée aux médias, aux prises avec cette année révoltée. Lundi, ce fut l'ORTF. Mardi, les radios Rennes, Europe 1 et RTL. Ce matin, plongé au cœur du nouvel observateur. Comment ont réagi les grands journaux de l'époque? Les rédactions étaient-elles à l'unisson ou étaient-elles chahutées, elles aussi, par des conflits de politique interne? Comment la crème des cartes de presse a-t-elle perçu les mouvements étudiants?
L'instant M.
Sonia de Villers,
des étudiants et des enseignants
sur France Inter.
Bonjour René Bachmann.
Bonjour Sonia de Villers.
Une immense carrière au sein d'un seul et même journal. 47 ans au Nouvel Observateur. Vu de ma génération, c'est magnifique. Vous aviez quel âge quand vous y êtes entré?
Je suis entré à 24 ans.
Ouais.
Je suis entré 3 ans avant cet événement-là. Mm-hmm. La veille de l'année précédente cet événement-là, l'Observateur existait depuis 3 ans. J'étais le plus jeune du Nouvel Obs.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Je suis maintenant le plus vieux de Mediapart.
C'est ça, puisque quand le Nouvel Obs est devenu l'Obs, vous avez quitté, vous avez quitté les lieux et vous avez rejoint Mediapart. Un petit mot d'info, un petit mot sur la photo aussi en 68 et on y vient. Cette année si fertile en création de nouveaux médias voit encore naître un nouveau magazine papier. Il s'appelle Vraiment, je vous en montre la couverture si vous me regardez en vidéo. Il promet de faire se confronter les idées, de se pencher sur les grandes transformations de l'époque. De fait, il démarre avec des sujets, on va dire, moins rebattus, plus originaux que ceux de leurs camarades de Hebdo qui se sont lancés mi-janvier. Mais Vraiment, à la différence de Hebdo, ne prend pas le risque de faire de l'investigation, de traquer la révélation. Alors, l'enquête à la sauce Hebdo a pu susciter moult critiques, à juste titre, à mon avis. Vous vous souvenez sur Nicolas Hulot. Pour ma part, j'avais des réserves, dès le premier numéro, sur celle consacrée à la SNCF. Néanmoins, j'aimerais rappeler quelque chose ce matin. C'est noble, c'est dur et c'est courageux de financer et de publier de l'enquête quand on est un jeune journal. Hebdo y résistera-t-il? Pas sûr. Les troupes étaient réunies hier avec moins de 10 000 ventes par semaine et de 8 000 abonnés. Le magazine est financièrement menacé. Voilà, et c'est pas René Bachmann qui dira le contraire. Hein, c'est noble, non, et c'est courageux de financer, de publier de l'enquête.
C'est difficile et c'est parfois payant. On le voit depuis hier soir avec,
avec
l'interrogatoire
la
de notre ancien président.
Voilà, mais sachant que Mediapart a été aux avant-postes
Mediapart
de cette enquête.
Mediapart a été le
journal
en pointe dans cette affaire. C'est Mediapart finalement qui a levé l'histoire.
Mm-hmm. Et qui, alors pour le coup, s'est vu, comment dire, susciter une belle levée de boucliers.
Ah, il n'y a pas un enthousiasme formidable derrière nous quand les premières informations sont parues. C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, bon, il n'empêche que l'enquête n'est pas terminée et ça n'est qu'une mise en examen. Alors avant de plonger dans les archives du Nouvel Observateur, René Bachmann, je vous propose un détour par la photo en 1968, l'excellente revue Polka, dans son dernier numéro qui vient de sortir en kiosque, consacre un beau papier au club des 30-40. Bonjour Elisa Mignot.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on appelle le club des 30-40 en photographie?
Alors le club des 30-40, c'est un club qui à l'époque était très connu et qui est un club où se retrouvent en fait plein de photographes, autant des gens très connus comme William Klein, Édouard Bouba, Marc Riboud, Henri Cartier-Bresson, qui déjà à l'époque étaient des grands noms de la photo, que d'autres qui vont devenir connus, ou certains ne le seront pas d'ailleurs, tels que Jeanne Ignieps, Claude Dithivon, Bernard Perrine. Donc c'est vraiment un lieu carrefour, un club photo qui pendant mai 68 va prendre de l'ampleur parce qu'ils vont tous ces photographes vont trouver dans mai 68 et ces événements en fait une rébellion, si vous voulez, au diapason de eux, la rébellion qu'ils voulaient porter dans le milieu de la photo.
Alors pourquoi 30-40?
Alors 30-40, c'est un clin d'œil qu'ils font au salon photo à l'époque qui sont organisés par la toute puissante Fédération Nationale des Sociétés Photographiques de France et qui impose des normes d'exposition. Mmh. Et c'est le format 30-40. Donc c'est un peu une moquerie, disons, un pied de nez.
D'accord. Donc c'est un format photo, et donc c'est l'envie de, on va dire, de décorseter la photo et dans ses formats, mais et aussi dans son propos.
Alors oui, c'est vraiment les deux. Et ce qui est tout à fait particulier au moment de mai 68, c'est qu'en fait, ils vont faire quelque chose qui peut jusqu'à aujourd'hui nous paraître extrêmement moderne. C'est une exposition sauvage et en simultané des journées de mai 68 dans un local associatif de la rue Mouffetard. Très rapidement, dès les premières journées de mai, les photographes vont débarquer, leur tirage sous le bras, donc après avoir couvert les manifestations dans l'après-midi et parfois dans la nuit. Ils développent dans les labos, souvent dans leur salle de bain chez eux, et ils arrivent avec leur tirage qui vont punaiser au mur. C'est assez incroyable parce qu'en fait, c'est une exposition évolutive, une espèce de journal en perpétuel mouvement, une galerie d'actualité. Je pense que peut-être c'est important de rappeler que à partir de la mi-mai jusqu'à la mi-juin, en fait, les imprimeries sont en grève. Donc ça veut dire que les débouchés, et notamment pour les photographies de magazines, sont assez limités. Mm-hmm. Donc cette galerie d'actualité prend d'autant plus de sens que là, on informe en direct et en images de ce qui se passe à deux pas.
Est-ce que ces photos que vous, du coup, hein, vous avez, elles ont été archivées, que vous avez pu consulter, est-ce que finalement elles donnent une image assez différente de toutes les icônes, de tous les totems, de tous les clichés qu'on a tous en tête sur 68, les images de Gilles Caron par exemple?
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ces photos-là, elles font preuve d'une grande spontanéité et d'une quotidienneté des événements de mai 68. C'est-à-dire que, par exemple, Bernard Perrine, qui est un photographe qui, à l'époque, couvrait mai 68, qui est toujours photographe d'ailleurs, il raconte que lui, il a voulu couvrir ce qui était à la périphérie des barricades, c'est-à-dire les embouteillages, la grève des éboueurs. Il va y avoir Jeanne Ignèves, par exemple, qui photographie les grèves aux Galeries Lafayette, ou même à un moment les crèches qui se créent dans les grands magasins. Donc, si vous voulez, il y a des à côté.
C'est ça, pas seulement la place de la République ou la rue Gay-Lussac.
Voilà, ces à côté sont pas forcément restés dans les annales photographiques et dans les icônes qui sont répétées commémoration après commémoration depuis 50 ans.
Merci beaucoup Elisa Mignot. Et donc c'est à retrouver votre article et une sélection de ces photos dans le magazine Polka qui est en kiosque en ce moment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. René Bachmann qui est avec moi en studio, tout jeune journaliste en 1968 au Nouvel Obs, Nouvel Observateur, on disait.
C'était le Nouvel Observateur.
Nouvel Observateur. Et on peut dire peut-être à l'époque que c'est l'âge d'or de la presse magazine, c'est l'âge d'or du Nouvel Observateur qui, l'année précédente 68, tire à 180 000 exemplaires. Et que deux ans auparavant, le Nouvel Observateur a changé sa maquette. La couve est passée en quadricromie, c'est très important dans l'histoire de la presse, on
Absolument.
S'en rend pas compte aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on va laisser une beaucoup plus grande place à la photo par rapport au texte, René Bachmann.
C'est vrai. L'Observateur était né en 64. Mm-hmm. Et pendant les deux premières années, il a ressemblé un peu à la New York Review of Books. C'était une très belle couverture blanche, uniquement graphique, avec une photo. Le premier exemplaire avait une photo de Sartre. L'édito était signé par Sartre. Le journal avait une allure formidable. Il avait aussi une allure formidable, pas seulement du point de vue graphique, mais du point de vue du fond. Mm-hmm. Parce qu'il y avait une série de signatures absolument extraordinaires. C'est pourquoi j'étais fou de joie quand j'y suis entré, moi.
Alors voilà. Je vais vous faire écouter un son, qui remettra peut-être les choses à leur place, parce que sur Twitter, depuis 2-3 jours, il y a des auditeurs qui m'interpellent en disant, mais nous ne sommes pas en mai, Sonia. Vous célébrez l'anniversaire et la commémoration de mai 68 en mars. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, je vous réponds donc, demain, on sera le 22 mars. Demain, ça fera pile 50 ans que les étudiants de Nanterre ruaient dans les brancards.
Pour que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la révolution soient libérés.
Alors, j'ai relu pour préparer cette émission le livre que Marie-Dominique Lelièvre a consacré à Claude Perdriel, fondateur du Nouvel Obs, qui est paru chez Stock l'année dernière. Je cite Marie-Dominique Lelièvre, 22 mars, occupation de Nanterre. Parmi eux, un journaliste du Nouvel Observateur, littéralement embedded dans le lit d'une étudiante de Nanterre. René Bachmann, que faisiez-vous dans le lit d'une fille à Nanterre ce 22 mars?
Pas dans le lit d'une fille, mais j'étais dans la salle du conseil d'administration de l'université. J'étais le seul journaliste.
Oui.
Pour plusieurs bonnes raisons. La première bonne raison, c'est que c'était à peu près mon âge. J'avais l'âge des étudiants. Et je passais inaperçu, donc j'étais là tout le temps. La deuxième bonne raison, c'est que je couvrais ce qui se passait à Nanterre, pas seulement depuis le début du mois de mars, mais depuis le début de l'année. Parce que beaucoup de gens ont oublié, mais Nanterre n'a pas commencé en mars. Nanterre a commencé en janvier, février, avec les manifestations des garçons et des filles, pour que les garçons et les filles aillent dans les dortoirs des uns et des autres.
Mais si Marie-Dominique Lelièvre se permet ce petit clin d'œil, c'est que vous aviez une petite copine à la fac.
J'avais une copine à Nanterre, oui.
Ah, bah voilà. On saura tout.
J'y serais allé sans copine quand même.
On saura tout. Marie-Dominique Lelièvre le raconte au Nouvel Obs, dit-elle, il y a eu un petit retard à l'allumage. Au départ, le journal a raillé l'effervescence incohérente des étudiants. Vous diriez la même chose ?
Je dirais que certains dans le journal ont raillé l'effervescence des étudiants. Moi, je ne l'ai pas raillé. J'étais donc témoin du mouvement du 22 mars. J'ai fait dans le numéro suivant, je ne me rappelle plus quel jour c'était, mais j'ai fait un assez long papier dans lequel j'expliquais ce que c'était que ce nouveau mouvement. Oui. On ne connaissait pas. C'était un mouvement qui réunissait des gens organisés, inorganisés, des trotskistes, des maos, des anards, des spontanéistes, des situationnistes. C'était un foutoir formidable, mais en même temps joyeux, très intéressant. Et j'étais très heureux d'être dans un journal comme celui-là, dans lequel on pouvait se permettre le luxe d'expliquer ce qui venait de se passer, alors que les autres journaux ne le comprenaient pas.
Alors, on va parler des autres journaux, mais un mot du Nouvel Obs. Au Nouvel Observateur, ça réunissait quoi à gauche ? Il y avait les spontanéistes et les maos dont vous venez de parler ?
Non, il n'y a pas tellement de spontanéistes au Nouvel Obs. Non,
je peux vous le dire très sincèrement, quand on est né en 1975 comme moi, on ne sait pas ce que c'est qu'un spontanéiste, René Bachmann.
Vous savez ce que c'est que le Nouvel Obs ?
Oui, et un Mao aussi.
Un Mao aussi, et un trotskiste aussi.
Oui.
Non, le nouvel observateur réunissait, disons, la gauche, toute la gauche non communiste. Ça commençait, d'accord, disons, au Parti Socialiste, et ça allait à l'extrême gauche. Il n'y avait pas tellement de trotskistes, mais il y avait l'extrême gauche était représentée, disons, de la gauche du Parti Socialiste, éventuellement de la droite, jusqu'au Parti Socialiste Unifié, jusqu'au PSU. Il y avait des dirigeants du PSU qui étaient dans la rédaction.
Et 68 a divisé la rédaction ?
Divisé, elle a séparé dans des débats. Il y a eu des débats très forts, très très ardents, qui n'étaient pas tellement sur... Là où c'est là où c'est intéressant, et c'est là où c'est très très 68 comme mentalité. Les débats n'étaient pas tellement sur des positions politiques, mais sur des positions par rapport à ce qu'était 68.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait suivre ce mouvement étudiant ? Est-ce que ce mouvement étudiant était seulement un mouvement étudiant ? Ou est-ce qu'il s'ouvrait sur l'ensemble de la société, ce que beaucoup pensaient ? Ou est-ce que ce mouvement étudiant était un truc, un peu une résurgence du mode des crayons, des gommes, des écoles, des classes, etc. Ce que pensaient un certain nombre d'autres, qui pensaient que ça allait s'étouffer rapidement.
Et Jean-Daniel, par exemple ?
Jean-Daniel était assez... Il était très intéressé. C'était un personnage, c'est toujours un personnage très très curieux de tout. Donc il était très curieux de voir ce qui se passait. Il avait voulu très vite rencontrer Danny Cohn-Bendit, qui était cette espèce de phénomène. Mais en même temps, il était très très méfiant. Il n'avait pas tellement tendance à être enthousiaste de voir le remue-ménage de Nanterre, mais il m'a quand même laissé le couvrir de façon très très libre.
Très très libre. On va l'écouter, Jean-Daniel. C'est une archive issue des réserves de France Culture en 2008.
On ne peut pas participer à un mouvement et être pas logique avec soi-même. Il faut mettre le journal en autogestion. Tout le monde participe à l'administration, à la vente, la publicité d'abord, on n'en veut pas. Plus de publicité, on en avait très peu. Puis il y avait une interdiction, ça peut vous faire rêver, ça peut faire rêver l'auditeur, ça. Il ne fallait surtout pas mettre le chiffre de vente, afficher le chiffre de vente, pour ne pas donner au rédacteur la tentation d'écrire pour être plus vendu que d'habitude.
René Bachmann, il a lâché le pouvoir facilement, Jean-Daniel, parce que de ce que j'ai lu, moi, en fait, la rédaction lui demande le passage en autogestion et je lis que Sartre a dû s'en mêler et demander à Jean-Daniel pourquoi est-ce qu'il refusait de lâcher les bribes, les rênes du pouvoir et que Jean-Daniel aurait répondu à Jean-Paul Sartre.
Et au temps moderne.
Voilà, et au temps moderne, toi, tu te comportais en autocrate.
Absolument.
C'est vrai,
mais
tout
oui,
ça
bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y a eu une demande, c'est vrai, il y a eu des assemblées générales permanentes. L'Observateur, c'était un peu comme Nanterre ou la Sorbonne pendant cette période-là. Il y avait des assemblées générales permanentes. Et je dirais même, il y a eu d'autant plus d'assemblées générales qu'il y avait la grève à partir d'un certain moment et que la grève ne permettait plus aux journaux de sortir.
Ça, c'est extrêmement important. Il faut le rappeler. Grève des kiosquiers, grève des NMPP.
Grève générale, grève de tout.
Plus de papier, plus de distributeurs.
Plus de SNCF pour transporter les journaux, plus d'avions, plus rien. Donc, on ne pouvait plus faire le journal. Ça faisait qu'on pouvait faire autre chose, c'est-à-dire on pouvait enquêter quand même, être dehors. Tout le monde était dehors, tout le monde était dans la rue, enfin, la plupart des gens étaient dans la rue, à l'Observateur, et moi en particulier.
Et en même temps, Père Driel a fait imprimer le journal à l'extérieur.
Alors,
des frontières.
Alors il a fait, je crois, une ou deux tentatives, il y en a eu une qui a eu lieu en Allemagne, hein, ouais, où il a loué un avion pour y aller, et pour revenir, pour apporter
quelle
les journaux.
Quelle énergie quand même.
Et ensuite, ouais, on a vendu, nous, les journalistes, avec des amis, on a vendu les journaux sur le boulevard Saint-Michel.
À la Criée,
oui. On les a vendus, on les a même un peu donnés d'ailleurs, parce que tout le monde n'avait pas de fric, etc. Enfin, c'était une période un peu dingue, mais c'était formidable. C'était un moment où on avait l'impression que la société pouvait changer. Elle a d'ailleurs pas mal changé, mais pas d'un seul coup. Elle
non,
a changé beaucoup après,
coup.
Mais elle doit beaucoup à cette époque. Moi, je ne fais pas partie du tout, vous l'avez compris. Des gens qui crachent sur mai 68 en disant « je ne veux plus en entendre parler, c'est un truc de ma jeunesse », etc. Oui, alors, c'est un truc de ma jeunesse, mais je le revendique hautement.
Ce qui est très intéressant, René Bachmann, c'est de relire les premiers papiers de vos confrères. On voit bien, alors on peut peut-être rappeler que Le Monde avait publié le 15 mars 1968 ce
la
fameux
« s'ennuie.
La France s'ennuie », signé Pierre Vianson.
Pourtant, Dieu sait que c'était un bon journaliste.
Voilà, la France s'ennuie le 15 mars 68. Vous dites que, en fait, dès le début du mois de mars et dès le début de l'année, en réalité, tout ça avait commencé. Hein, toute cette
mais personne n'y faisait très attention.
C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Quand ça commence, l'UMA se met du côté de la municipalité communiste de Nanterre et accuse les fils de bourgeois, je cite les fils de bourgeois, d'entraver sa politique universitaire.
Oui, c'est vrai. L'UMA était toujours très réservé. Ben, dans les gens qui faisaient la révolution à Nanterre, comme disaient les communistes, oui, il y avait des trotskistes, il y avait des maoïstes, il y avait des spontanéistes, il y avait des anards, il y avait donc tout ce que les communistes de l'époque
détestaient
et peut-être détestent encore.
Et puis il y avait aussi François, qui était quand même le journal le plus lu en France, qui parlait de fils de bonne famille dévoyés, sans compter Le Figaro qui dira des étudiants, ces jeunes, ils relèvent plutôt de la correctionnelle.
Absolument, mais bon, ils ne comprenaient absolument rien. Ils ne comprenaient rien. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très très content de pouvoir suivre ce mouvement. Et j'étais pas le seul. On était une dizaine à suivre ce qui se passait, aussi bien à Nanterre qu'à la Sorbonne, à l'Odéon, dans les rues, etc. Mm-hmm. Parce qu'on considérait que, j'allais dire, ce mouvement était fait pour nous. Ou nous étions peut-être faits pour ce mouvement. L'Observateur était là pour rendre compte d'un truc pareil. Quand un mouvement prend en charge toute la société, elle a envie de changer toute la société, on ne peut pas être absent. Et nous avions aussi envie de changer la société. Le journal Nouvel Obs était né pour ça.
Qu'est-ce que vous avez appris journalistiquement ? Après, vous avez été grand reporter, vous avez travaillé dans le monde entier, vous avez couvert énormément de crises, de révoltes, de barricades, de conflits. Vous avez été un grand éditorialiste, justement, sur les questions internationales. Qu'est-ce que vous avez appris cette année-là, journalistiquement ?
J'ai appris cette année-là, journalistiquement, que quand on veut bien travailler, il faut avoir du temps pour le faire. Parce que, figurez-vous que...
Vous dites ça alors que vous avez couvert, justement, une période très intense à chaud.
Oui, c'est vrai. C'est
à
vrai.
Chaud.
J'ai couvert cette période très intense à chaud, en faisant des papiers, tout en suivant ce qui se passait à la Sorbonne et ailleurs. Mmh. Et en même temps, pendant le mois de mai, le mois de juin, où il y avait plus d'activité économique dans le pays... le journal ne sortait plus. J'ai passé tout mon temps à écouter, entendre, à enregistrer, voir des gens sans arrêt. Ce qui m'a permis de faire un bouquin au mois de septembre avec un collègue de l'Observateur qui s'appelait Lucien Rioux. Et si j'avais dû travailler en même temps, j'aurais eu beaucoup de mal à tout faire.
C'est ça. Donc en fait, vous avez fait les deux expériences simultanément.
Absolument.
C'est-à-dire le journalisme à chaud, quasiment en temps réel.
En ramassant les informations en temps réel, mais en les restituant avec un peu de délai. Mais je pars toujours du principe que la bonne manière de travailler, c'est d'être à chaud, d'être sur le terrain, et d'avoir la possibilité d'en rendre compte de façon un peu paisible, avec le moins de pression possible.
Est-ce que Jean-Daniel a repris rapidement le pouvoir ?
Il a jamais vraiment perdu.
C'est ça.
N'ayez pas peur pour lui, il ne l'a jamais vraiment perdu.
Merci beaucoup, René Bachmann. Et on poursuit cette exploration médiatique de 68, puisque demain, on consacrera l'émission à... Alors là, pour le coup, non plus à l'effervescence politique, mais à l'effervescence journalistique. C'est-à-dire que 1001 journaux sont nés de cette période-là et ont paru en France. Merci René Bachmann, c'est la fin de l'émission.